Alors, on va reculer dans le temps.
Parce encore.
Ouais, ouais, mais là, on n'a pas passé de groupe des années 70, donc on est trop.
Je sens qu'on va y avoir droit. Non?
Bah, non, là, non. On est trop, peut-être trop jeune, finalement, par rapport à, pour avoir vraiment accroché
les années. Ça, ouais,
alors que c'est pas le cas, hein, faut quand même le dire. Alors, du coup, on va remonter quand même à 81. Donc, c'est il y a longtemps, 81. Et puis, un groupe français, parce que alors dans cette programmation, quand on a fait nos choix, quand on s'est échangé des mails là, dans le monde moderne, on se dit tiens tu passes quoi machin, eh ben pas de groupe français.
Ah ouais, mais moi là franchement,
le métal français, alors qu'il y a eu une grosse vague moi que j'ai vécu,
oui, les
et que j'ai
80,
adoré
hein,
dans les années 80, tout à fait.
Sortilège et autres.
Mais que c'est vrai que quand j'ai fait ma sélection, que j'ai mis Mercyful, Dream Theater, Metallica, Maiden, j'avais du mal à mettre ADX à côté quoi. Pourtant j'ai adoré autant, je pense. Sauf un groupe. Et effectivement, c'est le plus gros groupe français. Mais c'était, voilà, moi j'ai adoré ce groupe. Je crois que je connais toutes les paroles par cœur, en tout cas des 5 premiers disques. C'est Trost. Donc là, je vais vous passer un morceau de Répression. Alors Répression, c'est le premier album qu'ils vont vendre à l'appel, puisqu'il y a le tube Ultra.
Quel tube, Qu'est-ce que c'est, le tube antisocial, tu perds ton sang.
Ah oui.
Repense à tous ces années de service.
C'est
pas un morceau d'Anthrax?
Non, bah voilà. Donc, ils sont arrivés à sortir quand même 3 albums en langue anglaise, 3 de leurs albums. Il y a un succès énorme, là, ils sont, alors c'est limite metal punk, hein, il y a beaucoup d'influences punk, notamment dans les paroles, puisqu'ils sont très agressifs, très à gauche à l'époque, avant qu'ils deviennent beaucoup moins à gauche. On l'avait vu sur la dernière tournée, à inciter les gens à aller voter, ce qui était quand même à l'opposé de certains morceaux de Trost à l'époque. Voilà. Alors, moi, c'est vraiment un groupe que j'ai adoré jusqu'au quatrième album, qui est un album qui est un peu mal aimé parce qu'il y a une face où ça parle que du diable à 4 morceaux. Moi, je rentrais dedans, je trouvais ça incroyable. Enfin, voilà. Mais il avait moins marché. Et puis le cinquième album, lui, était un petit peu plus commercial avec un tube serre les points. C'était pas terrible.
Faut quand même le dire. Tu le fais très bien, d'ailleurs. Ouais. Tu mimes très bien.
Très bon. Et puis ensuite, c'est la déconfiture totale avec des albums qui sortent et qui renient. Il y a,
ah bon, ils ont fait ça.
Ouais, Ni Dieu ni Maître, un album qui est sorti il y a quelques années et qu'il renie complètement, qui est sorti sans qu'il voulait. Enfin, bon, c'est qu'une affaire de pognon, ce groupe aujourd'hui.
C'est bien dommage,
très,
hein.
Très triste.
Très très loin de l'image qui pouvait se donner au début des années 80, très à gauche, comme
voilà.
Tu précisais.
Ouais. Bah oui. Et donc, du coup, dans cet album Répression, j'aurais pu passer Antisocial, j'aurais pu passer Monsieur Comédie, Instinct de mort, Au nom de la race, Passe, Fatalité, Saumur, Le Mitard, Sort et Griffe.
Ah oui, le mitard, oui. Ouais, ah, puis, dommage.
Ah oui, le mitard, c'est ce bandit célèbre français, voilà tout. Non, j'ai choisi le dernier morceau du disque, Les Sectes. Et donc ils ont eu aussi beaucoup de discours anti-religieux. Voilà, ça fait plaisir d'écouter ce morceau de Trost, un morceau d'un groupe français dans Noise Pollution numéro 100.
Cotise la terre promise. Quel est ton dieu, quel est ton but?
promise. Quel est ton Dieu, quel est ton but? Et merde.
Voilà donc Trost avec ce morceau contre les sectes et les religions un peu plus...
Scottis pour la terre promise.
Ouais, non mais c'est énorme quand même Trost. Donc voilà, les sectes, c'était le deuxième album, Répression.
Je vais continuer moi avec cette vague donc de gothique death metal qui a marqué les années 90 et qui m'a personnellement beaucoup marqué. Donc après Tiamat, un groupe que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, les Anglais de Paradise Lost qui sortent donc en 1993 leur quatrième album qui s'appelle Icône, le monumental Icône. À l'époque, je me souviens très bien, on les qualifiait presque de nouveaux Metallica. Ils ont eu un succès démentiel avec cet album.
Alors moi, je me rappelle même qu'en Allemagne, par exemple, ils avaient vendu plus de disques que Metallica.
Tout à fait, exactement. Un album très très gothique death, un truc vraiment colossal quoi. Que des tubes sur cet album d'ailleurs. En tournée maintenant, ils en jouent encore pas mal d'extraits de cet album là. C'est vraiment l'album de la reconnaissance. L'album d'après qui s'appelle Draconian
voilà,
Tams.
Moi c'est mon préféré Draconian
voilà,
Tams.
Voilà, c'est là où ils vont atteindre leur sommet commercial. C'est là où ils vont en vendre le plus. Il y a encore l'album d'après qui s'appelle One Second qui est absolument phénoménal aussi. Donc c'est le triptyque, c'est vraiment les trois albums majeurs de Paradise Lost. Paradise Lost c'est un groupe qui est toujours en activité, hein, toujours un bon niveau de qualité.
Quand
hein.
On les a vus la dernière fois à Lyon, c'était super bien.
Ouais, c'était très très bien. Très très bien. Moi, je les ai vus l'année dernière aussi au Brutal Assault, je crois. Enfin bon, bref, ils ont toujours une bonne qualité, mais enfin, ils restent quand même cantonnés, et c'est quand même dommage, ils restent cantonnés dans une espèce de deuxième division, commercialement parlant. Ils ont jamais réussi à atteindre vraiment le niveau d'un machinette, enfin, l'équivalent d'un très 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 gros groupe, quoi. Pourtant, la qualité est là, quoi.
Ils ont essayé de faire une espèce de Dépêche Mode à un moment, ouais. C'était pas terrible.
Non, c'était excellent. Il a pas été bien accueilli, cet album, qui s'appelle Host.
C'est insupportable.
99, non, vraiment excellent. Non, c'est pas vrai.
C'était très bien.
Dingue. Moi, je l'écoute encore bien celui-là. Ouais, vraiment, voilà. Donc, un morceau de Icône, forcément, le morceau, ça s'appelle Remembrance Paradise Lost. des excellents anglais de Paradise Lost qui viennent de la ville de Halifax. Avec un excellent quatrième album sorti en 93, c'était Icône, le morceau c'était Remembrance. Ben, Paradise Lost, c'est un groupe qui est resté très très stable au niveau de son line-up, notamment ils ont eu juste un petit problème au niveau du batteur qu'ils ont changé trois fois. Mais Nick Holmes, donc le chanteur, est toujours, toujours fidèle au poste, ainsi que Greg McIntosh, le guitariste, le principal compositeur de ce groupe absolument extraordinaire qui s'appelle Paradise Lost. Si vous êtes fan de cette espèce de gothic death, voilà, c'est vraiment une référence du genre. À savoir que quand même Icône, c'est le dernier album avec une voix vraiment typiquement death. Après, sur l'album suivant qui s'appelle Dragon and Thames, ça tendra plus vers le gothique, plus commercial, plus accessible.
Plus accessible, c'est pas commercial non
ouais,
plus.
Ouais, pas commercial,
plus
accessible. Pas exagéré, oui.
Ouais.
Enfin, quoi que je crois que, oui, je les ai vus à l'époque aux Rock'n de Belfort avec le Dragon and Thames, tout de même. Oui, oui.
Ouais.
Avant juste les Cure.
Putain, incroyable.
Non, c'est vieux, ça.
T'as vu les Cure.
Ah, t'as pas vu les Cure,
toi? Ah, j'ai jamais vu les Cure.
Ah, c'était excellent.
Ouais. Alors, moi, je suis aussi très fan de guitare et de guitare technique. Donc, forcément, dans ma sélection, j'ai mis, alors, on passera pas le deuxième parce que j'ai oublié de prendre le disque, puis on aura sûrement pas le temps. Mais j'avais mis deux guitaristes, qui m'ont marqué, moi, en tant que guitare instrumentale, démonstrative, tout ce qu'on veut. Il y a, Tony McAlpine, qui avait sorti, au milieu des années 80, le premier album de guitare instrumentale moderne, on va dire très influencée par la musique classique, et en 87 sort Joe Satriani.
Surfing Wild Valley.
Voilà, c'est le deuxième album en fait, mais c'est le premier qui est connu. Le tout premier album, moi je n'avais même pas entendu parler.
Mais attends, tu viens de m'apprendre que c'était le deuxième. Je crois que c'était le premier.
Non, il y a Not of This Earth en premier.
Ah exact, oui,
ouais,
oui,
un
tu
album
as raison. Qui
est pas mal, mais un peu en dessous. Et donc sort Surfing with the Alien en 87, et c'est la première fois la guitare instrumentale existait déjà un petit peu, notamment grâce à Tony McAlpine et à l'équipe de Shrapnel Records, qui vont beaucoup en sortir de ces guitaristes néoclassiques. Sauf que lui, c'est la première fois qu'un guitariste de métal sort un disque accessible. C'est-à-dire que d'un seul coup, avec cet album-là, des gens qui étaient allergiques à la guitare démonstrative se sont mis à
en écouter.
Donc Satriani est arrivé à faire ce truc-là, qui est assez incroyable. Et aujourd'hui, 25 ans après, ça marche toujours. Le dernier album est sorti, il est vraiment très bien aussi. Donc voilà, il est arrivé à faire ce truc incroyable, alors que dans ses morceaux, il y a plein de parties qui sont très dures à jouer et qui sont très techniques. Mais non, il a un sens de la mélodie incroyable, du rythme. Voilà. Alors, Surfing with the Alien reste pour moi mon album préféré. Il faut dire que c'est le premier que j'ai écouté longtemps. Je l'ai vu en concert sur cette tournée-là, par hasard, hein, en allant en vacances. Cette fameuse année où je suis allé en vacances aux États-Unis, là, après mon bac, là. Enfin, l'année d'après. Où d'un seul coup, on voit une affiche dans les rues de New York, Joe Satriani. On a pris les places. Alors, il était que première partie de Stevie Ray Vaughan, que je ne connaissais pas, et qui est un énorme guitariste de blues,
blasphème,
qui est mort après.
Mais
à l'époque, je n'écoutais que du métal, je ne connaissais pas grand chose. Et là, donc là, on avait vu Satriani sur un quai de New York. Donc voilà, un album énorme. Satch Boogie. Donc Satch, c'est le surnom de Joe Satriani. C'est, c'est tout, presque
classe,
tout le monde
quoi,
connaît, mais c'est vraiment la classe, Joe Satriani. Ouais. Voilà donc Joe Satriani avec cet album Surfing with the Alien, ce fameux album célèbre où on retrouve le surfeur d'argent, là, super-héros des comics américains. Voilà, c'est l'album instrumental accessible par excellence. Il a inventé vraiment quelque chose. Alors certes, il y a eu Jeff Beck avant, d'autres gens comme ça, mais voilà, Satriani va propulser le métal instrumental et
la guitare
instrumentale vers le grand public.
Il est 22h08, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et l'émission numéro 100 de Noise Pollution, une émission absolument exceptionnelle, hein. Maintenant ça fait plus de 2 heures qu'on tient le crachoir, si je puis me permettre.
Ouais.
On continue à vous diffuser les albums, nos albums coup de cœur. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à parcourir cette riche histoire du métal. On va continuer avec un groupe scandinave, toujours dans cette vague, disons, de métal gothique, death, donc issu de la Scandinavie. Je vous ai passé du Tiamat, du Paradise Lost, et un autre membre imminent de cette confrérie, qui a même inventé, je dirais, le death metal, disons, Madding Göteborg, donc une ville célèbre de Suède, avec Dark Tranquility notamment. Il s'agit de In Flames, qui a eu donc dans les années 90 sa première période très très death mélodique en fait, hein, avec aussi les At the Gates, des choses comme ça, truc très très agressif. Et ils vont clôturer ce premier chapitre de leur histoire au début des années 2000, et ils vont attaquer à partir de 2004, disons le deuxième chapitre de leur histoire, avec un death metal beaucoup plus pop entre guillemets, beaucoup plus accessible, je dirais, avec un album qui s'appelle Soundtrack to Your Escape. Alors avant il y avait eu Reroute to Remains, tu t'en souviens, hein? Ouais, tu me regardes. D'accord, il y a que moi. Tu sais pas de quoi je parle.
Si,
mais c'est pas grave.
Je connais la discographie d'In Flames, même si j'adhère pas du tout à la musique de ce groupe.
Bon, mais tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Donc il y a eu Reroute to Remains, où là vraiment In Flames prend le contre-pied complet de leur death metal mélodique, avec un côté beaucoup plus pop, beaucoup plus accessible. Ils vont rencontrer un succès absolument terrible avec ça. Le deuxième album issu de cette deuxième vague, qui s'appelle donc Soundtrack to Your Escape. Et moi, c'est mon album préféré. Il a tourné un nombre incalculable de fois chez moi. Avec un morceau, notamment, qu'il joue encore très très régulièrement et qui clôture les shows de In Flames. Notamment, on se souvient du Hellfest il y a 2 ans. Vous avez clôturé là-dessus. Enfin, un psy, mais monumental, où justement, ils en profitent pour lancer toutes leurs pyros, etc. Enfin, c'est génial. Le morceau, c'est My Sweet Shadow, In Flames. In Flames avec son morceau My Sweet Shadow, extrait de Soundtrack to Your Escape. Bon, moi je reconnais, c'est un petit peu popisant tout de même.
Ouais, mais ça reste death metal.
Ah, ça reste death metal avec une voix.
Death pop. Ouais.
Complètement. Mais bon, voilà, moi je suis fan, moi je suis un false one, je le reconnais. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, il y aura des choses un peu plus virulentes tout à l'heure.
Ah bah ça va venir là, parce que je crois que ça monte en pression.
Oui, c'est ça.
De ton côté. Alors moi, par contre, je vais rester calme jusqu'au bout.
Bah tu tempères, c'est ça.
Ouais, je tempère tes ardeurs death metal. Avec un groupe sur lequel on est d'accord, je pense, tous les deux. Je pense, un groupe les plus importants du hard rock au sens large des années 90.
Voilà. Mais pas commercialement parlant, en tout cas.
Ah non. C'est, d'ailleurs, c'est inversement, plus les albums seront bons du groupe King's X, moins ils en vendront. C'est ça un truc incroyable quand même avec ce groupe. Donc effectivement, les Américains, les Texans de King's X vont sortir, ils continuent de sortir des disques. Le dernier s'appelait 15 et c'était le 15e album du groupe, est sorti il y a peut-être 2-3 ans. On les avait vus dans ces...
Oh, souviens-toi.
On est quasi KO, oh là là, mais c'était merveilleux. Donc ils vont sortir pas mal d'albums et surtout... alors moi, je vais découvrir King's X à la sortie du premier album. C'était en 1988 parce que j'ai lu... Alors, je sais plus quel magazine c'était, Enfer, Hard Rock, je sais plus. Quelqu'un avait fait une chronique de ce groupe que personne connaissait, bien évidemment. Et il s'était emballé. Et moi, je dis, mais c'est quoi ce disque? Donc, j'avais cherché le disque en import. Et là, ça avait été la classe. Et puis, vont sortir année après année des... En tout cas, les quatre premiers albums sont vraiment quatre références.
Le troisième est terrible, c'est Face Open Love.
Ouais. Alors moi, mon préféré reste le deuxième, Gretchen Goes to Nebraska. Donc voilà, alors King's X, particularité, un trio, mais ils font le boulot de 12, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais,
techniquement, ils taquinent un peu.
Ouais. Voilà, ils taquinent carrément. Particularité aussi, influence, alors on dit toujours qu'ils sont influencés par les Beatles. Pourquoi ? Parce que ils ont tendance à chanter à deux, voire à trois voix, même si les harmonies vocales sont pas du tout les mêmes que celles qu'il y a chez les Beatles. Il y a ce côté, voilà, il y a plusieurs chanteurs et ils font des harmonies vocales. Voilà. Sinon, c'est, on va écouter, hein, parce que le mieux, c'est d'écouter un morceau. Hard rock, avec multiples influences, pas mal de blues, et puis ils ont une personnalité incroyable, ces musiciens, notamment au niveau du chant, les deux chanteurs. Voilà, c'est...
La classe.
Ouais,
encore une fois.
Il n'y a pas d'autre mot pour ce groupe.
C'est, non, c'est la classe.
La classe. J'ai choisi, c'était pas facile, dans les 12 morceaux de l'album, d'en choisir un. On en a cité quelques-uns hors antenne. Là, il me dit, ah, t'as mis Summerland? Non. Over My Head? Non. Non, j'ai mis Fall On Me. C'est un morceau qui est un peu énergique. Alors, Summerland, c'est une balade acoustique qui est merveilleuse. Fall On Me, il y a un riff de guitare que j'adore. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon choix de ce
Un bon argument.
Goes to Nebraska des Américains de King's X. Voilà donc King's X. Là, on avait enchaîné sur l'autre morceau. On parlait d'autre chose. On parlait de Metallica hors antenne. Donc voilà, deuxième album de King's X sorti sur Atlantic, Mega Force à l'époque. Donc Gretchen Goes to Nebraska et le morceau c'était Fall on Me. Un groupe qui a des fois été classé dans le métal chrétien.
Ah alors bon que
c'est... oui, j'avais vu ça, un truc, j'avais pas compris.
Chrétien.
Ouais, parce qu'il y a le Face Up Love, la foi, ouais. L'amour. Mais alors ouais. L'espoir. Mais en fait, pas du tout. Ils sont pas du tout dans cette veine-là. D'ailleurs, il y en a un, comme tu me faisais aussi remarquer hors antenne, qui avait fait, Doug Pinnick, qui avait fait son coming out.
Ouais.
Donc, du coup, ils sont pas du tout dans cet esprit-là.
Si, tu peux être chrétien. Ouais, alors,
mais c'est mal vu, tu sais.
Je veux
oui,
dire.
Tu peux tout à fait. Par contre, c'est mal vu.
Ah, bon.
C'est un autre problème.
Ah, je sais pas, oui.
En tout cas, voilà, King's X continueront de faire des albums vraiment bien, même s'il y a une période un petit peu de creux, qui vont se rechercher. Voilà, le 15 qui était sorti en 2008 était vraiment très très bien.
On continue avec ma programmation, avec mes choix, avec un album que j'ai sorti, qui est sorti en 2002. Donc c'est un petit peu dans la continuité hein, des groupes que je vous ai passés. Donc après le In Flames, avec disons cette espèce de révolution, pas de révolution, mais d'évolution de leur son, c'est quelque chose qui va beaucoup, qui va bien marcher, et qui va notamment avoir un certain écho aux États-Unis. Et aux États-Unis, un certain nombre de groupes vont être très très inspirés par ce son-là à la In Flames. Et il y a notamment un groupe. Enfin, en 2002, je me souviens encore quand je découvre le CD entre mes doigts, je le mets sur la platine, je prends une claque monumentale. C'est une groupe qui s'appelle Killswitch Engage.
Qui est un groupe connu aujourd'hui.
Qui est un groupe connu qui, pour moi, alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant cela, mais puis pour moi a inventé ce qu'on appelle le metalcore à l'époque en 2002. Oui, non,
ouais. Alors je connais le metalcore, mais je peux pas dire si c'est eux qui ont inventé ou pas. Ça, c'est sûr. Je vais pas te faire de la polémique là-dessus.
Là, en tout cas, c'est le premier groupe, le premier album qui a ce son là pour moi, donc très très inspiré par cette scène scandinave. Je vous propose donc le tube monumental de Killswitch Engage qui se trouve sur cet album.
Je sais pas si on peut appeler ça un tube.
Ah si.
Pardon, excuse-moi. Allez, vas-y.
Donc l'album en 2002 c'est Alive or Just Breathing et le morceau c'est My Last Serenade. Killswitch Engage.
Yeah.
Switch Engage qui en 2002 me marque d'un fer rouge quoi. C'est un album et moi j'ai oh, putain, okay. Bref, alors
ça sera vas-y.
Oui, je voulais expliquer en fait le metalcore parce que bon pour moi ça paraît évident mais pour expliquer pour le grand timonier qui manifestement voilà.
Qui est resté bloqué sur les années 80 et jusqu'à preuve du contraire le metalcore n'existait pas.
Ah non, tout à fait. Le metalcore ça date vraiment ça vient des États-Unis et ça commence au début des années 2000. Donc le principe, vous l'avez bien compris, c'est des rythmiques très hardcore avec un chant hurlé et des voix claires, notamment sur les refrains. Et donc, c'est Kill Switch Engage qui va vraiment populariser ce genre-là. Après, il y a tout un tas de groupes qui vont suivre derrière, type God Forbid, My Shadow Falls, des choses comme ça. Mais c'est vraiment Kill Switch Engage qui ouvre la voie. Et moi, cet album de 2002 m'a vraiment marqué avec ce chanteur Jesse Leach qui va quitter le groupe à la suite de ce deuxième album. Il y aura un nouveau chanteur qui s'appelle Howard Jones qui va rester un bon moment avec Kill Switch Engage et qui va quitter le groupe aussi l'année dernière. Et Jesse Leach est revenu. C'est pour ça qu'on les a vus l'année dernière avec Jesse Leach où ils ont joué une grande partie de cet album Alive and Just Breathing au Ninkasikao. Un truc de fou. Et voilà. Et là, le nouvel album vient de sortir. Je vous en ai passé il n'y a pas longtemps et c'est extraordinaire.
Alors, la dernière partie de l'émission va être dans ce style-là. C'est-à-dire, moi, je vais passer des trucs des années 80 un peu calmes et mon collègue va passer des trucs plutôt de death metal des années 90 ou 2000.
C'est exactement c'est ça, parce que ça. Là, il est 22h20, 22h30 même, ouais. Et les enfants sont couchés. On peut commencer à attaquer des trucs un peu plus méchants.
Donc, il va y avoir un morceau calme, un morceau agressif. Voilà. Donc, je passe mon morceau calme.
Ah.
Eh oui. On est en 1988. J'ai dit les années 80. Hein. Ouais. Là, j'ai plus que des morceaux des années 80. On est en 1988. Je suis jeune et beau.
Tu es toujours beau.
C'est déjà ça. Oui, en 1988 sortira un album.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, mais là, un album énorme. Concept album qui raconte une histoire de dictateur.
Ah oui,
tu vois de quoi je parle.
J'en ai déjà passé.
Oui, donc c'est Queensryche. Alors moi j'ai toujours prononcé Queensryche, mais il paraît que dans les pays anglo-saxons on dit Queensryche.
Oui, parce que le che n'existe pas en anglais.
Et oui. Bon, donc Queensryche, ils vont sortir. Alors c'est un groupe que moi j'ai connu. Alors, en 86 à peu près, a priori, juste à la sortie de Rage for Order, où je vais découvrir donc Rage for Order, qui est un album incroyable, et The Warning, qui est le premier véritable album du groupe, super bien aussi. Sauf que jusqu'à maintenant, c'était voilà encore un groupe de presque de seconde zone. Arrive 1988 où là ils sortent un concept album autour de cette histoire de dictateur et de régime totalitaire, très bien fait. Donc 15 morceaux qui s'enchaînent. On les comparait à l'époque au Pink Floyd. On disait que c'était les Pink Floyd metal. Ouais, d'abord parce qu'il y a un morceau fin où ils ont repompé un petit truc de Pink Floyd. Bon, bref, c'est vraiment le concept album, un des meilleurs concept albums du genre, hein, du metal. Même si on les met dans le metal progressif, les morceaux font pas 15 minutes. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a une histoire qui a raconté. Après, ils vont sortir des albums plus commerciaux, et puis après, c'est une catastrophe.
La déchéance ultime.
Ouais. Voilà, la déchéance ultime. En tout cas, Parachute Macrum reste une référence.
Ah oui.
On écoute, alors, j'ai cherché un morceau parce que je crois que je les aime tous. Mais, un morceau un peu,
Revolution Calling?
Alors, non, un morceau qui s'appelle The Needle Lies, que j'aime bien, qui est très dynamique, vous allez voir, avec cette voix un peu au perché, mais magnifique, de Gov Tate.
You can't walk away now. You'll never get away.
Voilà, Queensryche, donc avec ou Queensryche avec sur Operation Mindcrime, donc concept album qui dure une petite heure et on suit cette histoire. Groupe qui malheureusement vraiment est sombré au plus bas puisque ils vont sortir Empire et Promised Land, des morceaux plus FM, des albums plus FM sur lesquels ils vont effectivement faire des tubes aux États-Unis. Et puis après une période de vide énorme avec des albums un peu grunge mais horriblement nuls.
C'est un fan qui dit ça.
Ah ouais, vraiment. Ouais, j'ai arrêté d'être fan en 88, moi. Hein, enfin, en 90, 12, on va dire.
Alors, Empire.
Ouais, jusqu'à Empire. Promised Land est encore pas mal, mais ouais, à peine. Si, il y a eu un sursaut avec Operation Mindcrime 2, qui est pas trop mal. Et puis, bon, les autres, c'est pas terrible. Notons qu'un nouvel album vient de sortir, qui s'appelle Frequency Unknown, mais dans une version bizarre, puisque ils sont tous engueulés dans le groupe. Alors, d'abord, il faut quand même dire que l'un des principes, le principal compositeur, qui est Chris de Garmo, dans la version moderne de Queensryche, est parti depuis quelques années.
Donc, il est parti en 99,
ouais,
je crois.
Ouais. Qui est le guitariste. Ouais. Donc, du coup, il reste Gufted. Gufted s'est engueulé avec les autres, parce que il imposait beaucoup de choses. Et donc maintenant, il existe deux Queensryche.
Exactement.
Le Gufted Queensryche, qui vient de sortir Frequency Unknown, et l'autre version de Queensryche, qui ont le même nom, et qui sortira un album dans les mois qui viennent, avec Todd Lamour.
Ouais, l'ancien chanteur de Crimson Glory.
Au chant, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est un groupe qui était vraiment énorme. 80, à la fin des années 80, et qui est tombé pire que n'importe quel groupe pourri, quoi. Du collège, on apprend à jouer de la guitare et on fait, je sais pas
si tu te souviens de leur prestation lors du Hellfest il y a 2 ans, je crois.
C'était pas nul, mais c'était pas terrible.
C'était vraiment pas terrible.
Ouais.
Allez, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses, après c'est un petit peu...
Que ça tabasse.
Voilà, exactement. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que moi je suis assez fan de death metal, ce qui n'est pas du tout le cas du grand Timonier Laurent. Donc je suis un petit peu bridé dans cette émission, je ne peux pas passer beaucoup de death metal. Alors j'en écoute pas mal, donc notamment les grands anciens. Oui, il faut quand même le dire. Donc j'avais le choix, je voulais quand même pas non plus imposer beaucoup de death. J'aurais pu choisir un Carcass, j'aurais pu choisir un Rotting Christ, j'aurais pu choisir plein de choses. Un Morbid Angel, bien sûr, que j'ai beaucoup écouté, mais finalement mon choix s'est porté sur Immolation, un groupe américain, vraiment la quintessence du death metal new-yorkais, avec notamment deux personnages absolument, les deux leaders de Immolation, qui sont Ross Dolan à la basse et au chant, et Robert Vigna à la guitare, qui pond des hymnes à longueur, des hymnes death metal. Je vous propose un extrait parce que bon, il fallait choisir un morceau. Alors voici un morceau de 8 minutes de death metal.
Comment on va
changer ? Immolation avec son album donc qui s'appelle The Unholy Cult, sorti en 2002 à l'époque, le 5e album de Immolation. D'ailleurs, à noter que c'était sorti chez Listenable Records, le label français. Ils étaient signés chez eux. Donc je vous propose le morceau éponyme, Unholy Records, 8 minutes de bonheur.
Thank you.
2002, c'est la sortie de cet immense album The Unholy Cult de Immolation. De toute façon, Immolation, c'est très très simple, hein, c'est très facile. Vous prenez tous leurs albums, ils sont titanesques. Ben voilà, c'est clair.
Ils en ont fait combien, eux?
Ah, je sais pas exactement. Peut-être 8 ou 9. Et ah là, oui, ils viennent d'en sortir un, là, ouais, que je vous passerai très prochainement.
Oui, j'ai vu la belle pochette de Immolation.
Oh, ça va me faire plaisir. On a eu la chance de les voir sur Lyon l'année dernière. C'était extraordinaire. On prend la partie d'un groupe un peu plus dispensable, mais bon, peu importe.
C'était quoi?
Marduk.
Ah oui. Oh putain. Ouais. Alors, donc moi je reste dans mes années 80, du coup j'ai pas le choix, hein, parce que bon, j'ai pas grandi, je crois. Je suis resté bloqué. N'empêche qu'un groupe qui est connu au-delà des années 80, puisque c'est une star du thrash, il paraît que c'est dans le Big Four, comme on dit, dans les quatre grands groupes de...
Donc t'as déjà passé du Metallica, j'ai pas passé du Slayer.
J'ai pas passé d'Anthrax.
Ah non, c'est du Megadeth.
Bah voilà. Donc oui, Megadeth, moi je me rappelle très bien de la séparation avec Metallica, avant la sortie du premier album, de la sortie de Killing Is My Business, premier album que j'ai écouté, puisque à l'époque il y avait celui-là qui était sorti, j'adore. Alors, pourtant cet album est détesté par 99,9% des fans. Il faut dire quand même que l'album Killing Is My Business a un son pourrave.
Ah, clair.
Mais qu'il a été réédité, remasterisé avec un super son, sauf qu'ils ont enlevé un morceau que j'adore.
Ah bon, la réédition ne comprend pas l'ensemble des morceaux.
Parce que sur le premier album, il y a une reprise Six Boots de Nancy Sinatra qui est incroyable, quoi. Et sauf qu'ils ont dû,
il y a un problème de droit.
Voilà, il y a un problème de droit. Et donc, il y a pas longtemps, j'ai acheté la version remasterisée, j'ai pas fait gaffe, et il manque ce morceau. C'est du vol.
Ah, ah oui, ah clairement.
Bon, du coup, j'ai l'autre, la version non remasterisée et vinyle aussi, d'ailleurs.
C'est une anecdote que j'ai.
Ouais, vraiment, putain, mais ouais, je me suis fait avoir. Hein, je savais pas plus. Il y a eu plein de versions. Il y a eu une version avec des bips de Killing Is My Business. Il existe une version où sur certaines parties.
Sur les gros mots, j'imagine. Voilà, sur les fuck notamment.
Il y a bip. C'est horrible, c'est inécoutable. Le dit sur un beep morceau you. En fait. Il y a un morceau qui est comme ça. Enfin bon, bref. Donc là, je vais pas vous passer le premier album. Mais le deuxième, qui est pour moi le meilleur album de Megadeth.
Ah bon?
Ouais. Peace non, but with buying.
C'est le meilleur, mais tu.
Mais ouais. Grave.
T'as écouté un truc qui s'appelle Rust in Peace?
Ah ouais, non, mais pour moi c'est bien en dessous. Ah mais je passe.
Attends,
mais
passe ton morceau, faut qu'on discute.
On n'est pas d'accord. Ça c'est sûr. Non, mais moi j'ai quand cet album est sorti, c'est il y avait My Last Word, il y avait Black Friday, Pain the Devil on the Wall, il y avait enfin des morceaux incroyables. Donc voilà, moi c'est resté mon album préféré. Alors bien évidemment, j'allais dire j'ai tous les disques. Non, c'est pas vrai. J'ai pas Risk. J'ai Risk dans une version promo toute pourrie, mais que je n'ai dû écouter qu'une fois. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Jusqu'à Euthanasia, moi j'aime vraiment les albums de Megadeth. Mais celui-là, c'est celui que je préfère. Hein, ça s'explique pas, hein, du coup, parce que c'est effectivement peut-être pas le meilleur au niveau compo, au niveau technique, tout ce qu'on veut. Mais moi, c'est celui que j'adore. Pixels But With Buying, c'est aussi le morceau que j'ai choisi.
Bon choix.
I can't get to work on time. I've got nothing better.
Voilà, moi, pour moi, c'est du pur bonheur que ce Pixels But Who Is Buying de Megadeth. En plus, c'est ma pochette préférée. Il est devant l'ONU. Et là, mais en plus, le titre est vraiment bien.
L'ONU en flamme.
Voilà.
Ou en ruine,
ou en ruine, plutôt. Ouais. Et la paix est à vendre. Mais qui en achète? En gros, qui en veut? Personne. C'est ça, quoi. C'était pas mal. Voilà, Megadeth, qui ont gardé enfin, Dave Mustaine a gardé des paroles un peu politiques, hein. On se rappelle, dans les albums récents, le System,
As Failed. Unité enfin, d'Abomination aussi.
Voilà, des choses comme ça. Bon, lui, il a vrillé aussi, puisque il a pété un câble un peu après. En plus, il était très con déjà dès le départ, hein, puisque dans les interviews avec les journalistes, ça se passait souvent mal dans les années 80. Oui, il était très agressif.
D'accord. Mais c'est bien.
Voilà. Et on rappelle, si vous avez pas vu, on a parlé tout à l'heure du documentaire avec Metallica là.
Oui.
Il est. Enfin, moi, j'ai honte. Quand il est interviewé, il pleure à un moment de sa séparation avec Metallica 20 ans après. Alors que moi, je bénis cette séparation.
Oui, parce qu'on a eu deux super groupes. Enfin, deux super groupes.
Si.
Il y en a un qui est un peu vrillé.
Lequel? Metallica?
Oui, Metallica. Oui.
Non, mais voilà, enfin, on a l'impression de voir encore un ado, sur cette période de sa vie. C'est bon, c'est passé. On a tous eu, comme ça, des aléas dans notre vie, tu sais. Il faut qu'on apprenne à vivre.
Bon, voilà. Il est resté bloqué.
Il est resté bloqué sur Metallica, le pauvre.
Ouais, il est jaloux, le pauvre.
On va rester à gauche dans les paroles.
Complètement.
Avec, le groupe de grind par excellence.
Exactement. Tu l'as merveilleusement introduit au Grand Timonier.
Moi, j'adore quand ils font la reprise de Nazi Fuck Off.
Des Dead Kennedys. Ouais. Et oui, bien sûr, vous l'avez deviné, chers auditrices et chers auditeurs. Il s'agit de Napalm Death. On va presque finir, c'est sur la fin là, hein, l'édition.
On est pas loin du bout, ouais.
Ouais, le chapitre numéro 100, on est presque à 3 heures de direct, chers auditrices et chers auditeurs. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous, parce que nous, vraiment, pour rien vous cacher, on s'éclate, hein, à repasser nos vieux disques, à repasser nos disques préférés. Et donc forcément, moi, dans mes albums préférés, il y a forcément un Napalm Death. Napalm Death, le plus grand groupe de grindcore du monde, hein, très grand vétéran. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur la scène, ça fait 30 ans qu'ils nous labourent les tympans. Tout à l'heure, tu évoquais Dream Theater, c'est le groupe que tu as vu le plus de fois en concert,
ouais,
sur lequel tu as le plus d'albums.
Une dizaine de fois, ouais.
Ouais, bah moi, c'est la même chose, mais pour Napalm Death. Je les ai vus à peu près 17 fois, je crois. 10 fois, j'ai tous leurs albums, j'ai des pirates, enfin bon, voilà, Napalm Death, c'est la quintessence du grind, ils sont extraordinaires. Leur dernier album Utilitarian est un véritable chef-d'œuvre. Après 30 ans de service au service de cette musique, alors ils arrivent encore à
le grind, c'est quand même l'ultra violence et l'ultra efficacité concentrée sur quelques secondes ou quelques minutes.
Exactement.
Sauf que là, t'as choisi un morceau long.
Oui, un morceau
progressif.
Progressif. Napalm Death sort en 1990 son troisième album qui s'appelle Harmony Corruption. On est vraiment en plein cœur de la vague death metal, hein, notamment tous les groupes issus de la Floride, hein, notamment Morbid Angel en tête, hein, les groupes issus de Tampa. Et donc il y a Napalm Death, donc qui en 90 sort Harmony Corruption, qui va donc à Tampa aussi mixer cet album par le producteur à l'époque qui est hyper connu, qui s'appelle Scott Burns.
Ah bah oui,
t'as forcément entendu parler.
Oui, ah bah c'est le producteur historique du death metal. Ah,
voilà, exactement. Et Napalm Death donc met quelques gouttes de death metal dans son grindcore pour sortir un album qui est vraiment titanesque, quoi, qui s'appelle Harmony Corruption. L'album d'après aussi fabuleux, Utopia Banished. Enfin bon, bref, je vais pas aller tous, ils sont tous très très bons. Napalm Death dans des genres un petit peu avec des variations autour du grind. Je vous propose le tube de Napalm Death. Ça s'appelle Suffer the Children, faire souffrir les enfants. Voilà, Napalm Death. We'll be right back. pas bon ça, Laurent, le grand timonier. C'est pas bon ça.
Non, mais je suis désolé. je sais que les trucs que je passe, moi, tu es plutôt d'accord avec moi. Par contre, donc ça veut dire que t'es finalement quelque part plus ouvert que moi. Où j'ai du mal avec le greencore, le death metal, le black metal. Voilà, je suis désolé. Mais par contre, s'il y a un groupe que je respecte, c'est Napalm Death. Et je te ferai remarquer qu'il y a 2 ans ou 3 ans, quand ils sont passés au Hellfest, 3 ans.
Oui.
Je suis allé les voir.
T'es resté?
Ouais, je suis resté bien 20 minutes, 5 morceaux, et ils ont joué Nazi Fuck Off que j'adore. Donc voilà, non, c'est un groupe qui est très, respectable.
Assez politisé.
Ah bah, super politisé.
Plutôt à gauche, on va dire, hein.
Bah, carrément à gauche.
Carrément à gauche. Carrément. Donc voilà, Napalm Death, Harmony Corruption, 1990. Bah, le grindcore mélangé à du death, ça donne ça, quoi. Suffer the Children, excellent disque. Moi, il a tourné, mais il tourne toujours d'ailleurs. Groupe excellent, Napalm Death.
Alors, il est 23h, passé de 1 minute à la pendule de la plus rebelle des radios.
On a passé le.
Ouais, 3h d'émission déjà.
Oh mon dieu.
C'est du talent, hein, on appelle ça. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Ouais. Donc on est toujours à fond dans nos disques préférés. Alors,
j'espère
moi,
qu'il nous reste quelques auditrices et quelques auditeurs tout de même.
C'est pas facile.
Manifestez-vous, j'imagine. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour nous faire part de vos commentaires, si vous avez aimé, vous aimez pas, enfin tout ça quoi.
Alors du coup, moi je. Dans les années 80, parce que je suis toujours bloqué moi. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné avec ses 3 premiers albums qui s'appelle Ronnie James Dio. J'avais pas du tout, alors moi dans les années 80 quand j'écoutais, j'ai jamais écouté Black Sabbath, hein, faut quand même le dire, j'ai écouté plus tard Black Sabbath mais pas au début. Et donc quand j'ai découvert Ronnie James Dio sur l'album Holy Diver, non, j'ai découvert je crois sur Last in Line le deuxième. Je savais pas d'où il sortait ce gars. Je savais pas qu'il avait chanté, je sais pas s'il a chanté peut-être même après d'ailleurs dans Black Sabbath sur 2 albums, Live and Hell et
Mabrult,
très bien. Bravo.
Mais c'était avant ça, ouais.
Oui, c'était avant, j'ai jamais su c'était avant.
Non, c'était avant.
C'était avant.
Et puis avant il était dans Rainbow aussi.
Il a été dans Rainbow sur 3 albums, il a été et dans un autre groupe dont j'ai perdu le nom à ce temps-là. Donc voilà. Donc du coup moi j'ai adoré les 3 premiers albums de Dio, notamment ce premier qui s'appelle Holy Diver.
Ah, donc des tubes sur cet album.
Ah ouais, alors je l'ai réécouté, ça faisait quand même plusieurs années que je l'avais pas écouté. Donc cette semaine quand j'ai regardé mes disques pour faire ma sélection, j'avais mis plein de noms et je me suis dit je vais tous les réécouter pour voir si je fais pas une connerie quoi. Et quand j'ai écouté Holy Diver, j'ai dit ouh là là, mais je devrais le réécouter plus souvent. Et quand ça commence, c'est je vous propose le premier morceau, Stand Up and Shot.
Ah oui,
c'était Ronnie James Dio au début des années 80.
C'est pas trop vieilli au niveau du son par contre.
Eh ben tu vas voir.
Je vais
un petit
plutôt.
Peu parce qu'on est en 1983 et que c'est une version de
d'époque quoi,
voilà,
enfin,
pas d'époque non, de la fin des années 80 en CD quoi.
Ouais.
Oui, qui est pas remasterisé, mais il y a tout ce qu'il faut, des riffs, la voix magnifique de Ronnie James Dio, vous allez voir. You get caught before you see it. Voilà, donc Ronnie James Dio. Donc on est en 1983, si je me trompe pas, avec ce premier album, Holy Diver. Donc Stand Up and Shout, le morceau qui ouvre le disque. Ce qu'on notera, c'est que Dio effectivement a une carrière importante. Il a joué avec Black Sabbath, il a joué longtemps en solo, hein, puisque des albums il en sortira un certain nombre.
Ouais, pas toujours avec beaucoup de succès d'ailleurs. Hein, des non, certains albums qui sont dispensables. Hein.
Alors du succès, c'est sûr. Moi j'ai vu Dio à Lyon au Trans Club.
Ah oui, je me souviens.
Ah
ouais, 96.
Ouais, c'est tout... ça. Donc dans la toute petite salle du Transbo, alors que c'est quand même un dieu.
Ah oui, c'est un dieu. Oui.
De la voix, c'était, tout ça. Enfin, c'était, oui, puisqu'il est, il est mort il y a pas bien longtemps, juste assez peu de temps après son dernier passage au Hellfest où il avait joué avec Evan Enel.
Mais attends, je crois bien que c'est pour aujourd'hui ou hier l'anniversaire de sa mort.
Ah, peut-être. J'ai pas
noté. Il y a 3 ans.
Ouais. Mais voilà, oui, c'est bon, c'est normal. Il a commencé à faire de la musique dans les années 60, donc c'est logique aussi qu'à un moment ces musiciens qui sont vieux et qui ont créé le style disparaissent aussi. Effectivement, il a fait des albums qui étaient un peu moyens, comme Angry Machine.
Ouais, je pense à celui-ci.
Ah, je crois que c'est le pire, celui-là. mais bon, voilà, c'est quand même un grand monsieur du métal.
Alors moi, je vais clôturer ma sélection avec un groupe que je pense, si vous nous écoutez, chers auditrices et chers auditeurs, depuis quelques temps, vous savez que je suis extrêmement fan de ce groupe.
C'est un peu comme moi, Clutch.
Ouais, c'est un peu toi, comme toi, Clutch, sauf que moi, ce groupe-là, je le vénère depuis le début des années 90. On a eu la chance de les avoir en début de semaine pour un concert au CCO. Il s'agit des Grecs de Septic Flesh qui nous a mis une baffe encore.
Non, t'as dit que c'était pas si bien que d'habitude.
C'est vrai que c'était moins bien que d'habitude. Pourtant, bon, Septic Flesh, ça fait peut-être une dizaine de fois que je les vois. Donc, il était évident que je mette un disque de Septic Flesh dans la sélection, dans ma sélection, et je vous ai choisi donc Sumerian Demons. Donc, à l'époque, c'est le 6e album de Septic Flesh, qui sort en 2003 sur le label allemand SPV, avant que SPV coule. Voilà, et c'est le dernier album de Septic Flesh, avant une longue pause qui durera près de 5 ans, avant un retour en 2008 avec Communion, un album titanesque. Mais ce Sumerian Demons, pendant 5 ans, il m'a beaucoup accompagné. C'est vraiment un album que j'ai aimé user jusqu'à la corde. Toujours dans ce death metal très très symphonique, très ampoulé, très très riche, très très mélodique également, vraiment excellentissime, avec une alternance de voix. On n'est pas dans du metalcore, hein, mais il y a une voix très claire et une voix très très gutturale de Seth Spiros. Je vous propose le morceau qu'ils nous ont joué pour mon plus grand bonheur lundi. Ça s'appelle Virtues of the Beast. Et c'est le Sumerian Demons.
Et c'est l'avant-dernier morceau de l'émission.
Ah oui, il y en a encore un après. Voilà, Septic Flesh, les Grecs, avec leur album de Sumerian Demon, sorti en 2003 sur le label SPV, avant une grosse pause de 5 ans. Bah, voilà, Septic Flesh, vous le savez, c'est énormissime. Si vous aimez le death metal orchestral, d'ailleurs, ils sont un petit peu tout seuls hein, sur ce créneau-là. Je vous conseille donc cet album Sumerian Demon, ainsi que les deux derniers, sortis chez Season of Mist, le Communion et The Great Mass.
Alors, c'est la fin, on va s'arrêter parce que...
Oui, hein, bah, ça fait 3h15 qu'on tient le crachoir, mon petit gars.
Bah ouais, ouais. Bon, j'étais un peu surpris de ta programmation, t'as pas mis de morceau de black metal.
Et je me suis fait la réflexion en venant. Oui, oui, j'aurais pu. J'aurais mis du Dimmu Borgir, je pense, ouais, ou peut-être du Immortal, qui sont très très accessibles. Hein,
mais t'aimes bien, t'en as passé.
J'ai eu une grosse période Dimmu Borgir, je le reconnais, mais maintenant c'est vraiment ça remonte à loin.
Derrière toi.
Ouais, ouais, complètement. C'est des choses qui sont assez datées maintenant pour moi. Enfin bon, bah, bref.
Voilà. Alors du coup, pour terminer, moi j'avais envie de terminer.
C'est vrai que toi non plus, tu aurais pu passer un morceau de black metal.
Non,
non, ça
n'était bien évidemment pas possible. Donc oui, moi, j'ai décidé de terminer par un morceau des années 80, forcément.
Je suis très surpris.
Ouais. Alors, je rappelle que moi, j'ai pas mal hésité à mettre des groupes récents que j'adore. Hein. Vous savez, si vous écoutez l'émission, que je suis très fan de Clutch, Orange Goblin aussi, j'en ai passé plein. Mais j'ai pas assez de recul sur ces groupes, parce que Alors que là, je vais vous proposer un morceau d'un chanteur, je sais pas, mythique du genre.
Mythique, c'est peut-être un peu fort.
Non, il faut quand même savoir qu'il a chanté dans le groupe qui a presque inventé le style.
Exact. Black Sabbath. Voilà. Ça peut vous aider.
Alors, du coup, on n'a pas passé Black Sabbath, qui est vraiment un groupe fondateur avec des albums excellents. Sauf que moi, par exemple, j'ai découvert Black Sabbath très tard, puisque j'ai d'abord découvert Ozzy Osbourne dans les années 80, quand je me suis mis à écouter du métal. Du coup, Black Sabbath, pour moi, c'est un très bon groupe, qui a créé des choses, mais c'est pas les groupes que j'écoute, le groupe que j'écoute le plus.
Mais si je te suis dans ton raisonnement, on n'a pas passé non plus de Led Zeppelin ou de ou du AC/DC.
Alors AC/DC, non, pourtant j'aime bien. Moi, j'ai tous les disques d'ailleurs.
Si, j'aime bien, mais c'est pas des trucs que j'écoute.
Mais Led Zeppelin, si, j'aurais pu, moi. J'avais prévu, en fait. Si on a été prêt à faire 5 heures de suite, dans 3 morceaux, j'aurais pu passer du Led Zeppelin 4, qui est pour moi un disque que j'ai beaucoup écouté, même dans les années 80, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai décidé de terminer par Ozzy Osbourne, qui est pour moi un de mes chanteurs préférés. Alors, il y a plein de gens qui disent, il chante comme un pied,
Non, c'est vrai. Maintenant, il chante comme un pied.
Ah oui, non, mais.
Maintenant, en live, c'est inaudible.
Non, c'est pas vrai. C'est une fois sur deux, il est un peu fatigué, il est un peu vieux, tout ça, il est croulant.
Attends, très honnêtement, Laurent.
Ouais,
la dernière fois que tu les as vus au Hellfest, l'année dernière.
C'était horrible. Voilà. Sauf que l'année d'avant, c'était bien. J'avais trouvé ça bien.
Mais t'étais parce que tu avais bu des bières.
Oui, ça c'est peut-être. Non, au Hellfest, je suis très sobre, contrairement à ce soir. Donc, du coup, non. Mais oui, moi, je vois un culte à Ozzy Osbourne. Il faut dire que j'ai découvert juste après Back at the Moon, donc en plein milieu des années 80. Des albums qui sont assez mal aimés d'Ozzy Osbourne, comme Back at the Moon. Moi, je me rappelle très bien avoir acheté en vinyle à la Fnac The Ultimate Sin, avoir passé mon demi-heure dans le métro à regarder l'album, la tête d'Ozzy Osbourne en monstre sur le disque, à imaginer plein de choses et à l'écouter. Et c'est devenu mon disque préféré d'Ozzy Osbourne. Si vous allez me dire, c'est peut-être pas le meilleur, oui, mais c'est celui que je préfère. Il y a que des morceaux que j'adore. C'est aussi un de mes guitaristes que je préfère en heavy, surtout qui est à contre-emploi sur cet album, ce qui est Jackie Lee, qu'on connaît après, qui a formé Badlands, qui est plutôt blues et qui est très très bon d'ailleurs dans Badlands, dans des choses blues. Sauf que là, dans une version heavy, il est incroyable. Alors bien sûr, sortira après, j'ai découvert après finalement Randy Rhoads, puisque l'album, de toute façon, hommage à Randy Rhoads, sortira après ces albums-là. Mais voilà, pour moi, Ozzy Osbourne, c'est The Ultimate Sin. Point. Et ce morceau qui s'appelle Secret Loser. Alors oui, c'est les années 80, c'est-à-dire qu'il y a un peu de clavier, il y a la production trop léchée surtout. Mais voilà, c'est le dernier morceau de l'émission et c'est un de mes albums préférés. Secret Loser. On dit au revoir ?
Je ne sais pas. Allez, après.
Secret Loser, Ozzy Osbourne.
My
Donc voilà, Ozzy Osbourne avec cet album un peu décrié, hein, The Ultimate Sin, hein, qui fait pas partie des albums de référence pour Ozzy Osbourne. Surtout que ses albums de référence sont plutôt du côté de chez Black Sabbath, ou peut-être un album avec Zakk Wylde ou le Randy Rose Tribute, hein, qui est une petite merveille. Sauf que moi, celui que je préfère, c'est bien The Ultimate Sin. Vous avez vu, vous êtes rendu compte, hein, le son typiquement années 80, la voix avec un peu d'écho, les claviers en fond, tout ça, c'est vraiment typique de ces
l'époque,
années-là.
Hein. Ouais, complètement.
Tout à fait.
Eh bien écoute mon petit Laurent, au Grand Timonier, il est 23h25, ça fait près de 3h30 que nous animons la centième de Noise Pollution. Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques auditrices et quelques auditeurs. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester sur la page Facebook de l'émission. Est-ce que ça vous a plu? Parce que nous on a pris vraiment énormément de plaisir à animer ces 3h30. En sortant tous nos albums préférés, c'était vraiment excellentissime. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission normale.
Avec plein de nouveautés.
Exactement, voilà. Parce que du coup, pendant 15 jours, les nouveautés se sont accumulées. L'émission numéro 101, et j'espère qu'on pourra faire une 200.
Oh bah, j'espère bien
100,
aussi.
Il n'y a pas de photo, il n'y a pas...
200, 300...
On va commencer à 200 d'ici 3 ans.
Donc 200, ça fait, si on fait 50 émissions par an, ça fait un peu plus de 2 ans.
Voilà. Bon, allez, on a bon espoir.
Allez, rendez-vous dans 2 ans. Enfin, la semaine prochaine.
Déjà la semaine prochaine, déjà, ouais. D'ici là, profitez bien de votre week-end, sous la pluie, malheureusement.
C'est vrai.
C'est triste. Oui, c'est triste. Allez, bonne semaine à tous, à bientôt.
Bye.
Ciao.